Aujourd'hui, elle doit se rendre avec sa mère chez la couturière pour les derniers essayages. En attendant l'heure, elle consulte compulsivement des catalogues. Elle voudrait des flambeaux pour tracer dans le parc un chemin de lumière menant jusqu'à la tente. Il lui demande, un peu agacée, pourquoi elle s'agite comme ça. Elle répond très calmement, sans cesser de tourner les pages. « Je m'agite comme ça parce que j'ai exactement 10 minutes pour trouver ce que je cherche. Ils ont des lampions, des cendriers avec des cœurs, des coussins en satin pour les alliances, mais pas de flambeaux. Je regarde ma montre et je vois qu'il ne me reste à présent plus que 8 minutes avant de devoir y aller, alors forcément, je m'agite, comme tu dis. » « Chérie, ne le prends pas mal. Je dis ça parce que je ne voudrais pas que tu perdes ton temps avec ça, c'est tout. Tu ne devrais pas tant te tracasser pour ce genre de détails. »« Vincent, ça ne me dérange pas de me tracasser pour ce genre de détails si ça doit contribuer à la réussite de la fête. » »« C'est seulement que je n'arrive pas à comprendre comment tu peux dépenser autant d'énergie à des choses aussi secondaires. Franchement, Bérangère, tout ça, on s'en fiche. » L'essentiel est ailleurs, non? L'essentiel, c'est qu'on s'aime. Ce sont les sentiments qui sont en nous. Elle referme le catalogue d'un coup sec, tourne vers lui un visage bouleversé. Tu sais que tu es très émouvant quand tu veux. Tu parles magnifiquement de nos sentiments intérieurs. C'est vrai que nos sentiments extérieurs ont beaucoup moins d'importance, conclut-elle, moqueuse. Il est contrarié de s'être laissé prendre en flagrant délire de pléonasme. Pour un avocat, ce n'est pas brillant. Il maugrait. C'est ça. Fiche-toi de moi. Elle soupire. Écoute, Vincent, je comprends ton point de vue, mais laisse-moi t'expliquer. Hier, j'ai passé l'après-midi avec un client dont le cabinet assure la défense. Un monsieur qui a brûlé sa petite fille de 8 mois avec un fer à repasser parce qu'elle pleurait trop fort. Si tu veux des détails, j'ai le dossier dans mon attaché case. Il n'a pas arrêté de me supplier d'empêcher qu'on lui enlève sa fille. Il était en larmes. Il répétait « Ma gamine, je l'aime, s'il vous plaît, il faudra que vous leur disiez que je l'aime. » Je n'ai pas réussi à me sortir ça de la tête hier soir, et j'en ai même rêvé cette nuit. Alors tu vois, aujourd'hui, j'ai très envie d'aller essayer ma belle robe et de chercher des flambeaux pour mon mariage dans ce catalogue plein d'horribles gadgets. Tu jetteras un coup d'œil au modèle de jarretière? C'est tout à fait charmant. Ça ne fait de mal à personne, et moi, ça me fait du bien. » Elle marque une pause, le regarde droit dans les yeux, puis esquisse un sourire. « Cela dit, ton truc sur la profondeur des sentiments et la vanité des apparences, c'était très bien. Tu m'as émue aux larmes. » Il s'approche d'elle et l'enlace. « Tu es la future mariée la plus insupportable que je connaisse. » Elle murmure. « Et quand on sera mariés pour de bon, ça ne risque pas de s'arranger. » « En attendant, je file à mon essayage. Si tu es sage, je te rapporterai une surprise. » Le soir, il trouve un petit paquet sur son oreiller. C'est un caleçon de soie gris-perle griffé Dior, avec un mot « Pour que, le grand jour, tu sois aussi beau dessous que dessus. Compte sur moi, mon amour, pour ne pas m'en tenir aux apparences. Je saurai me souvenir que l'essentiel est à l'intérieur. Ta presque femme qui t'aime. » Si rien ne filtre concernant la robe de mariée, la tenue des enfants d'honneur fait l'objet de longues discussions. Vincent n'en peut plus d'entendre Bérangère parler chiffon avec sa mère, sa sœur, ses amis. Elle n'a pas envie de quelque chose de trop ordinaire. Comme pour la porcelaine et l'argenterie, les catalogues s'amoncellent. Fin mai, Laurence lui indique une boutique qui porte le joli nom de « Bois de Rose » où l'on trouve des costumes et des robes adorables avec des smocks faits main. Sur la brochure, il y a la photo de 2 enfants. La petite fille porte une robe rouge, le petit garçon un bermuda assorti à la robe de la fillette, une chemise blanche et un nœud papillon. Chacun tient à la main un panier noué d'un ruban. Vincent leur trouve un air bête. Un samedi matin, Bérangère décide de l'emmener dans la boutique pour choisir avec lui un modèle. Il n'est pas contre. Il a décidé de ne pas la contrarier pour que ça aille plus vite. En démarrant, il lui demande « C'est où déjà la boutique, là ?» Il se rend compte qu'il a oublié le nom, dont elle lui rebat pourtant les oreilles depuis plusieurs jours. Il l'a sur le bout de la langue. mais il n'arrive pas à le retrouver. Elle le regarde interloqué, comme s'il était fou. Il répète bêtement « Ta boutique !» et reste en suspens, incapable de retrouver le nom. Elle le dévisage en souriant avec ironie. Il n'est pas difficile de deviner ce qu'elle a dans la tête. « Tu vois bien que tu ne t'intéresses pas à tout ça. Tu as même oublié le nom du magasin dont je te parle depuis une semaine. » Et puis soudain, il croit se souvenir. Il crie d'un air triomphal « Feuille de rose !» et comprend immédiatement, en s'entendant, qu'il vient de proférer une énormité. Le sourire de Bérangère disparaît. Elle se durcit et murmure « Tu te moques de moi, Vincent ?» Il bafouille en s'excusant que, bien sûr, ça ne peut pas être ça. Elle sort de la voiture en claquant la porte, fait le tour et vient ouvrir la portière côté conducteur. « Descends de là, j'y vais toute seule. » « mais non, je t'accompagne !» Elle répète excédée. « Ça suffit comme ça. Tu descends de là et tu me laisses y aller toute seule. Je crois que tout le monde s'en trouvera mieux. » Il sort de la voiture et s'excuse, l'air piteux. Elle le toise, prend place dans le véhicule et referme violemment la portière. Visiblement, elle regrette de n'être pas parvenue, ce faisant, à lui sectionner un ou deux doigts. Elle démarre sans un regard pour lui. À l'instant où la voiture disparaît, le nom de la boutique lui revient. Bois de rose. Elle aurait tout de même pu admettre que Feuille de rose n'est pas si éloignée, même si c'est nettement moins élégant. Il est pris de fou rire en se revoyant claironner Feuille de rose. Quel imbécile! Enfin, ce malheureux lapsus lui épargne une corvée. Évidemment, Bérangère est furieuse. Elle est très inflammable ces derniers temps. Mais il commence à avoir l'habitude. Ça l'impressionne moins qu'au début. Il va passer la journée à travailler sur des dossiers difficiles en attendant tranquillement son retour, qu'elle se calme et lui pardonne. Elle lui fait la tête jusqu'au soir. À table, elle ne prononce pas un mot. C'est lui qui doit rompre la glace. « Tu as vu de jolies choses à Bois de Rose ?» Il détache bien les syllabes pour qu'elle voie qu'il s'en est malgré tout souvenu. « Oui. » Tu as choisi quelque chose ? Oui. C'est comment ? Très joli. Tu as pris quelle couleur ? Vert pomme pour les filles et orange pour les garçons, répond-elle, impassible, avant d'ajouter. J'avais envie de quelque chose de gai et original. J'espère que ça te va. Il avale péniblement sa salive, essaie d'imaginer le cortège orange et vert, gai et original. Sûrement elle plaisante. Mais elle a l'air si sérieuse qu'il n'en est pas certain à 100%. Quoi qu'il en soit, mieux vaut passer pour un imbécile que prendre le risque d'un nouvel incendie. Il dit, en s'efforçant d'avoir l'air convaincu, « Mais oui, ça m'a l'air très bien, très bien !» Alors elle éclate de rire. « Mais non, espèce d'idiot, je te fais marcher, j'ai pris du rose pâle, tout simple, tout bête. Franchement, tu nous vois avec du vert pomme et du orange ?» Je voulais juste voir comment tu réagirais. » Il s'en doutait, évidemment. Mais mieux valait, en l'occurrence, faire montre de la plus extrême prudence. Il se sent soulagé, moins par le renoncement aux couleurs psychédéliques que par la bonne humeur retrouvée de sa fiancée. Elle se lève et vient s'asseoir sur ses genoux. Elle lui passe les bras autour du cou et l'embrasse. « Dois-je comprendre que je suis pardonnée ? » demande-t-il. « Pas du tout !» « Je t'en veux encore, mais j'ai décidé de faire semblant du contraire. » Il sourit, approche la bouche de son oreille et lui murmure des phrases qui parlent de Rose et qui la font rougir. Le samedi où il doit aller avec sa mère choisir son costume pour la cérémonie, une fièvre brutale le cloue au lit. Pendant 3 jours, sa gorge le brûle atrocement et la fièvre se maintient à 39. Bérangère se moque. Lui qui se vante de n'avoir jamais été malade de sa vie, sauf la varicelle à 6 ans, trouve le moyen d'attraper une angine en plein mois de juin. Il n'a même pas la force de répliquer, tant sa gorge est douloureuse. À compter de ce jour, c'est comme si son corps se détraquait subtilement, discrètement, sûrement. Toute une série de petits désagréments physiques se mettent à lui gâcher l'existence. Il y a les maux de ventre au lever, puis les maux de tête le soir, après le travail. La douleur s'installe, comme si elle prenait en lui ses quartiers d'été. Une migraine lancinante d'un bout à l'autre de la journée, des spasmes et des brûlures d'estomac. Dans le tiroir de son bureau s'accumule une série pathétique de médicaments cache-misère. Loin de compatir à ses malheurs, Bérangère le traite de « petit vieux » chaque fois qu'elle le voit avaler un comprimé. Il s'affole vraiment le jour où il connaît la première panne de sa vie. Assis au bord du lit, décomposé, il regarde son sexe tout ratatiné qui n'obéit plus à rien. Bérangère le cajole en lui disant que ça n'est pas grave, avec tout le travail qu'il a en ce moment, avec la préparation du mariage, c'est normal. Il est tellement contrarié qu'elle se montre particulièrement gentille avec lui et fait même l'effort de ne pas parler du mariage durant tout le week-end. Il retarde autant que possible la prochaine fois. Mais le vendredi suivant, rebelote. Entre ses cuisses, il n'a plus désormais qu'une chose molle et triste, totalement inefficace. Bérangère essaie de dédramatiser et ça ne fait que l'angoisser davantage. Elle se comporte exactement comme si ça n'avait pour elle aucune importance qu'il puisse ou non lui faire l'amour. Ça n'a pas l'air de lui manquer du tout. Le voilà livré aux spéculations les plus folles. Elle ne ressent rien avec lui. Elle simule depuis le début et se fiche qu'il devienne impuissant. D'ailleurs, elle s'endort à ses côtés, le laissant seul avec ses angoisses. À 1h du matin, incapable de trouver le sommeil, il finit par se lever. Depuis un moment, il se répète « cancer des testicules », sans pouvoir se sortir ça de la tête. Il cherche dans l'encyclopédie une planche anatomique représentant en coupe l'appareil génital masculin. Il imagine des virus qui s'attaquent au corps caverneux et les font pourrir lentement jusqu'à les transformer en éponges verdâtres et nauséabondes, des humeurs nocives infectant les canaux spermatiques. Il se tâte les bourses avec effroi, à la recherche d'un ganglion douloureux, d'une rougeur suspecte. À 2h, n'y tenant plus, il appelle un ami médecin. Le grognement au bout du fil indique que le docteur Thomas Lepron n'est pas ravi d'être réveillé en pleine nuit pour une consultation. Mais quand Vincent lui expose la situation d'une voix trahissant son angoisse, il part d'un grand éclat de rire. Le docteur Thomas Lepron est à présent bien réveillé et de très bonne humeur.
« Ne cherche pas, mon vieux, tu nous fais une bonne petite crise de stress prénuptial. »
Vincent répète, sans comprendre, « Stress prénuptial ?
Classique, mon vieux ! Ça t'angoisse de te marier et tu somatises. Classique !
Si ça peut te rassurer, je vois défiler dans mon cabinet des tas de types qui se chopent des maux de ventre, des maux de tête ou des angines à répétition à quelques semaines de leur mariage.
Je leur dis à tous la même chose. Une bonne nuit de noces et tout rentrera dans l'ordre. »
Vincent entend son ami ricaner à l'autre bout du fil. Il murmure, incrédule,
« Ah, tu crois que c'est ça ?»« Aussi sûr que j'ai en ce moment dans mon lit la plus jolie fille du monde, vachement réveillée par ton coup de fil. Bon ben, tu m'en voudras pas de pas prolonger, hein, mais j'ai affaire là. Surtout te bile pas pour ta quéquette, mon vieux. Ma bite a coupé qu'elle est en parfait état de marche. Allez, on se voit au mariage en 3 semaines !»
Vincent bredouille des remerciements et raccroche, abasourdi. Il est là, tout nu dans le salon, la queue entre les jambes, et la situation lui semble soudain très claire. Le mois prochain, il va se marier et il crève de trouille. Voilà ce qui se passe. Ça lui fait mal de se marier, mal au ventre, à la tête, à la gorge, et ça l'empêche de bander. Il ne parvient pas à comprendre comment il a pu si longtemps méconnaître ce qui se passait. En vérité, il a l'impression que tout est allé un peu trop vite. Durant les 15 derniers mois, tout s'est enchaîné. Tout semblait logique. Il a été entraîné par l'enthousiasme et l'énergie de Bérangère, comme anesthésié par son propre bonheur. Il s'est emballé. Maintenant, il a peur. Il voudrait revenir en arrière. Mais il sait que ça n'est plus possible. Il essaie de se raisonner. Cette fille-là, tu l'aimes, tu la désires, tu ne pouvais pas espérer trouver mieux. Il fait la liste de toutes les raisons qu'il a de l'épouser. Il en trouve beaucoup, trop peut-être. Certains jours, il pense à Nathalie, à sa douceur maternelle, à sa tendresse. Il ne l'a toujours pas revue depuis leur rupture. Il ne sait pas qui de lui, d'elle ou de Benoît retarde le face-à-face. Il pense à elle comme à un petit oiseau fragile qu'il a laissé s'envoler. Depuis que le mariage est décidé, il trouve que Bérangère a changé. Elle a encombré leur vie de détails sans importance. Elle s'est transformée en bourgeoise, pénible et matérialiste. en organisatrice d'événements mondains. Il ne la supporte plus. Elle le tue avec ses robes et sa vaisselle. Il ne se sent pas concerné par la couleur des bouquets de fleurs sur les tables ou par le choix du menu. Il en a assez de ces brochures de traiteurs avec leurs défilés de plats dont les noms prétentieux ne permettent même pas de deviner les ingrédients. Langues de belle-mère et gueules enfarinées sur leur lit de marron glacé. Roulades de cocu cuit à point dans leur jus, fricassées de pétasses et son coulis de prout-prout tralala, crème de morue à la sauce de mes couilles. Le menu de leur dîner de mariage, il s'en moque, comme de sa première chemise. Qu'elle choisisse toute seule et qu'on en finisse. Qu'est-ce qui a bien pu changer? Où est la fille qui m'embrassait avec audace le premier soir au restaurant? Où est la femme brûlante qui me murmurait des mots crus? Pourquoi cela fait des jours qu'elle n'a pas éclaté de rire? Au fond, il sait bien que rien n'a changé. C'est seulement qu'il la connaît mieux. Mais à présent, il l'aime avec lucidité, en sachant que lui aussi doit parfois la décevoir. Sur le coup de 3 heures, il se glisse dans leur lit, sans faire de bruit. Il l'entend respirer. Il est heureux qu'elle soit là. C'est aujourd'hui, à l'église, qu'il a revu Nathalie pour la première fois. Il l'a trouvée changée, plus mûre, plus belle, dans sa longue robe rouge. Ça lui a tordu l'estomac de la voir, avec ses cheveux détachés et son air doux de femme apaisée. Ils se sont à peine parlé, mais chaque fois qu'il l'a regardée, une main invisible lui a douloureusement trituré le ventre. À présent, le dîner touche à sa fin. Cette interminable journée n'a pas été la sienne. Il s'est contenté d'accomplir avec docilité ce qu'on attendait de lui. Il a embrassé sa femme, et il l'a trouvée belle et désirable, mais jamais elle ne lui a semblé si lointaine. Et maintenant, c'est presque fini. Il dansera un peu, et puis il lui dira la vérité. Qu'il est épuisé, qu'il va se reposer dans leur chambre, la suite nuptiale réservée pour l'occasion. La pièce montée arrive, sur un plateau immense porté par 2 serveurs. Il voit osciller au rythme de leur marche cette tour de Babel en chou à la crème, surmontée du traditionnel couple de mariés. Il se dit « c'est moi, ce petit bonhomme tout en haut, c'est moi ». Il se demande qui a pu inventer un gâteau aussi ridicule. Cette pyramide grotesque, ponctuée de petits grains de sucre argenté, de feuilles de pain azim vert pistache et de roses en pâte d'amande, cette monstruosité pâtissière sur son socle de nougatine et ce couple de mariés, perché au sommet. Qu'est-ce qu'il symbolise au juste? Les épreuves surmontées à 2? L'ascension périlleuse jusqu'au 7e ciel? La prétention de ceux qui s'imaginent que l'amour va durer toujours? Il paraît que si le gâteau est monté trop tôt, les choux se détrempent et s'affaissent, le caramel se dissout et tout dégringole. C'est peut-être ça le message au fond. Vous êtes bien mignons aujourd'hui, mes petits mariés, mais attendez encore un peu. Votre joli petit couple va en prendre plein la figure et vous allez vous ramasser en beauté. Il se dit, ce n'est pas le moment de penser qu'un mariage sur 3 s'achève par un divorce au bout de 5 ans. Ça n'est vraiment pas le moment. Bérangère s'avance vers lui, rayonnante, armée d'une pelle à tarte en argent. Évidemment, il faut que les mariés coupent le gâteau ensemble. Il faut se mettre à 2 pour attaquer l'atroce pâtisserie. Mets ta main sur la mienne, chérie, et en avant pour la grande distribution de choux à la crème. Bérangère détache les mariés en sucre d'un geste gracieux, les brandit sous les applaudissements et les dépose dans l'assiette de son mari. Qu'est-ce qu'elle veut que j'en fasse? En plus, ça doit être horriblement écœurant. Les voici à l'assaut de l'obscène montagne. Le caramel résiste. Les choux se détachent avec difficulté, s'éventrent et s'amoncellent dans les assiettes à dessert au milieu des brisures de caramel. C'est immonde. Il en a plein les doigts. Il sait qu'après ça, il ne pourra plus avaler un chou à la crème de toute son existence. Bérangère rit de sa mine déconfite. Elle se lèche les doigts avec gourmandise. « Ça ne va pas? Tu veux que je lèche la crème sur tes doigts? C'est bien le moment de faire de l'humour. Je reviens tout de suite, je vais me laver les mains. Reviens-moi vite, dit-elle en lui effleurant la joue de ses lèvres. Il dit oui, oui, et il part en courant. Au lavabo, il se passe de l'eau sur le visage. Il se regarde dans la glace en se disant, reprends-toi, respire, Cette fille, tu l'aimes. Cette fille est magnifique. Tu l'as su en la voyant que c'était la femme de ta vie. Tu vas passer à côté d'elle ton existence entière et ça te rend heureux. » Il se le dit, se le redit jusqu'au vertige, comme s'il devait s'en convaincre. Après s'être lavé les mains, il erre un moment dans le hall. Il ne veut pas y retourner, pas tout de suite. À l'autre bout, il voit la porte ouverte d'un petit salon et il a soudain très envie de marcher dans cette direction, d'entrer et de s'asseoir quelques minutes dans un canapé. Il ne sait pas pourquoi. Il est persuadé que le simple fait d'entrer là le réconfortera. La pièce est tendue de velours rouge, éclairée seulement par une petite lampe posée sur une table basse. Il s'avance vers un coin plus sombre et là, il découvre dans un fauteuil Nathalie, endormie. Elle a la tête un peu penchée sur l'épaule. Une mèche bouclée tombe sur son front et glisse le long de sa joue ronde. Elle a l'air d'une enfant. Il s'assied dans le fauteuil, à côté du sien, en faisant le moins de bruit possible. Il la regarde dormir, la gorge serrée, et les mots qu'il lui disait autrefois lui reviennent à l'esprit. « Ma douce, ma belle, ma petite caille. » Il ne sait pas combien de temps il reste là. Il voudrait ne jamais bouger et qu'elle ne se réveille pas. Lorsque soudain elle ouvre les yeux, il se redresse et dit bêtement « Pardonne-moi, je t'ai réveillé. » Elle le regarde en souriant et répond très calme « Tu ne m'as pas réveillé. Je ne dormais pas. J'étais seulement venue me reposer un moment. Toi aussi, j'ai l'impression. » Il y a dans sa voix une nuance de moquerie. Il est gêné de l'avoir contemplée si longtemps alors qu'elle ne dormait pas. Il cherche ce qu'il pourrait dire pour dissiper son malaise. Et puis, brusquement, il décide que c'est le moment de faire ce dont il aurait dû avoir le courage depuis longtemps. Lui demander pardon. Lui dire qu'il s'est comporté comme un salaud. Qu'elle ne méritait pas d'être traitée comme ça. Elle secoue la tête, comme si elle ne voulait rien entendre. Comme s'il disait des bêtises. Vincent, c'est vrai que, sur le coup, j'en ai bavé. Mais je ne t'en veux pas. J'espère que tu me crois. Je suis heureuse pour toi et Bérangère, sincèrement. C'est exactement le genre de femme qu'il te fallait. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Il répond « Merci », d'une voix étranglée. Il reste un long moment à se regarder, chacun dans son fauteuil. Ils sont tous les deux las de cette journée trop longue. Il la trouve belle, ses longs cheveux frisés un peu décoiffés contre le velours du fauteuil. Elle lui sourit aussi doucement qu'autrefois, mais dans ses yeux, il voit une assurance qu'il ne lui connaissait pas. Elle dit « Tu sais, lorsque tu m'as quittée, j'ai réalisé d'un coup que pendant des années, j'avais été complètement écrasée par ta personnalité. J'en avais oublié mes goûts et mes désirs. Il a fallu cette rupture pour que je me remette enfin à respirer par moi-même. » Il veut répondre, mais elle l'en empêche. « Non, ne dis rien. Je ne te fais aucun reproche, je t'explique, c'est tout. En fait, ça paraît étrange de dire ça, mais finalement, être quittée par toi, c'est ce qui pouvait m'arriver de mieux. Je ne te remercierai jamais assez pour ça. » Elle se tait un moment, renverse un peu la tête et ses mèches glissent sur ses épaules. Elle est loin de lui désormais. Elle ne lui appartient plus. Elle fixe sur la tenture un point invisible et murmure « Depuis que tu m'as quitté, Vincent, j'ai l'impression d'être enfin devenue une femme. » Cette phrase le glace et le fouette. Elle aussi l'a quitté, à sa manière, plus violemment, qu'il ne l'a fait lui-même. Elle n'est plus l'oiseau timide auquel il a souvent pensé ces derniers mois. Elle est une autre qu'il n'a pas su connaître. C'est comme s'il se réveillait d'un long rêve, comme s'il avait suffi d'une phrase doucement prononcée pour le rendre à la réalité. Il ne devrait pas être là, dans ce fauteuil, à côté d'elle. Il devrait être avec sa femme, celle qu'il aime et qu'il a choisie. Dans le parc résonnent les premières mesures annonçant l'ouverture du bal. Nathalie se tourne vers lui. « Tu ferais bien d'y aller, tu ne crois pas ?» dit-elle en souriant. Il la regarde un instant, rassembler ses cheveux sur sa nuque, ramener en arrière les mèches qui tombent sur son front, comme elle le faisait autrefois, assise au bord du lit. Il lui sourit à son tour.
« Tu as raison, j'y vais. »
Puis il se lève et marche vers la porte.